Le monde de demain, mai-juin 2023. Comme des somnambules se dirigeant vers la Troisième Guerre mondiale. Écrit par M. Gérald Weston et interprété par Jake Boyer. L'article commence. Pour les habitants des pays du premier monde, aussi appelés pays développés, la vie est belle. C'est probablement ce que ressentaient de nombreux habitants d'Hawaï en se réveillant par un dimanche matin ensoleillé le 7 décembre 1941 avant que des kamikazes japonais attaquent la base militaire de Pearl Harbor, causant d'immenses pertes humaines et matérielles et marquant l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était déjà en guerre depuis 2 ans. 2 décennies s'étaient écoulées depuis la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres et qui avait causé, directement ou indirectement, la mort de plus de 20 millions de soldats et de civils. La plupart des Américains n'avaient aucune envie de s'engager dans un conflit de l'autre côté de l'Atlantique et encore moins de l'autre côté du Pacifique. En 1941, l'isolationnisme des États-Unis était si fort que le service militaire obligatoire avait failli être supprimé 4 mois plus tôt. La victoire à la Chambre des représentants ne tenait qu'à un seul vote en faveur du maintien de la conscription, et la bataille aurait pu être perdue aussi bien que gagnée sans la personnalité de Rayburn, le président de la Chambre des représentants, sans son leadership, sa maîtrise de la procédure parlementaire, et quand il fallait agir, de son coup de marteau rapide comme l'éclair. Si Rayburn avait échoué, l'armée risquait de perdre environ 2/3 de ses effectifs et 3/4 du corps des officiers. En observant le monde à cette époque, n'importe qui pouvait voir les signes avant-coureurs de ce qui allait se produire, mais beaucoup voulaient croire que la catastrophe ne se produirait pas. Le Japon montait le ton avec la Chine et ses relations avec les États-Unis s'étaient détériorisées pendant la majeure partie de la décennie écoulée. À la fin des années 1930, la politique étrangère américaine dans le Pacifique reposait sur le soutien à la Chine et une agression du Japon contre la Chine mettrait nécessairement le Japon en conflit avec les États-Unis. Le Japon s'était déjà emparé de certaines régions de la Chine et des soldats japonais et chinois s'affrontaient. Dans la nuit du 7 juillet 1937, une petite force japonaise en manœuvre près du pont Marco Polo demanda à entrer dans la petite ville fortifiée de Wamping afin de rechercher un de ses soldats. Mais la garnison chinoise refusa l'entrée. Les négociations se poursuivirent pendant plusieurs heures. Finalement, un coup de feu fut tiré. Ce qui n'était au départ qu'une escarmouche localisée entre 2 petits contingents de soldats dégénéra en guerre sino-japonaise. Rétrospectivement, qu'il s'agisse d'Hitler et de Mussolini en Europe ou des actions du Japon en Extrême-Orient, le monde se dirigeait comme un somnambule dans le plus grand conflit que l'humanité ait jamais connu. Selon les estimations, entre 40 et 70 millions de personnes y perdirent la vie. La situation est-elle différente aujourd'hui? Sommes-nous également à la veille de l'impensable? Le Japon fit un mauvais calcul après l'incident du pont Marco Polo. Ce qu'il pensait être un conflit de courte durée conduisit les forces communistes et nationalistes chinoises à se battre contre un ennemi commun. Ce combat se poursuivit pendant 8 années brutales. Le Japon manquait de ressources naturelles telles que le pétrole, le fer, le caoutchouc et d'autres matières premières. Il essaya de s'en emparer par la force en Indochine française afin d'alimenter sa machine de guerre, mais cette situation alarma Washington. En juillet 1941, alors que les Japonais occupaient toute l'Indochine et avaient conclu une alliance avec les puissances de l'Axe, Allemagne et Italie, le gouvernement américain mit fin à toutes les relations commerciales et financières avec le Japon. Les avoirs japonais furent gelés et un embargo fut décrété sur les livraisons de pétrole et d'autres matériels de guerre essentiels en direction du Japon. L'attaque soudaine de Pearl Harbor fut la conséquence de forces se dirigeant inexorablement vers un affrontement. Ceux qui acceptent les faits reconnaissent que les avions japonais ne sont pas apparus à l'improviste. C'était le résultat d'une dérive progressive vers la guerre, une dérive qui avait commencé 10 ans plus tôt. Notre monde se prépare pour la guerre. Voici une question d'actualité. Vers quoi notre monde se dirige-t-il à présent? Un éminent politicien, fin connaisseur de l'histoire et réputé pour son réalisme, nous a donné la réponse. En 2017, 5 ans avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, l'ex-dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev déclara que le monde se prépare à la guerre. De la même manière que le monde des années 1930 sombra dans le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité, nos nations se dirigent vers la catastrophe comme des somnambules. La guerre contre l'Ukraine était censée être rapide et facile pour la Russie, tout comme le Japon s'attendait à l'emporter rapidement contre la Chine. Le président Poutine et ses conseillers se sont trompés. Moins de 2 mois après le début de l'opération militaire spéciale de Poutine, l'Ukraine envoya par le fond le navire amiral de la Russie en mer Noire, le croiseur lance-missile MOX-20. Les médias d'État du Kremlin titrèrent alors « La troisième guerre mondiale a commencé ». Olga Skabeyeva, une des principales figures médiatiques de Poutine, affirma bizarrement que la guerre en Ukraine était devenue une guerre contre l'OTAN. L'escalade peut être qualifiée de troisième guerre mondiale. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Nous nous battons désormais contre les infrastructures de l'OTAN, voire contre l'OTAN elle-même. Nous devons le reconnaître. Son analyse était-elle si bizarre que cela? Un mois plus tard, le pape François fit une déclaration similaire, comme la dépêche le rapporta dans son édition du 14 juin 2022. Le pape François s'est emporté contre les exactions menées par les forces russes en Ukraine dans un entretien avec des revues jésuites européennes. « Pour moi, aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale a été déclarée, et c'est une chose qui devrait nous faire réfléchir. Qu'arrive-t-il à l'humanité qui a connu 3 guerres mondiales en 1 siècle ?» s'est interrogé François. Était-ce une exagération? Ces 2 citations sont loin d'être les seules à exprimer ce point de vue. Dans un entretien accordé au Figaro en janvier 2023, l'anthropologue et historien Emmanuel Todd déclara que cette guerre est donc devenue existentielle pour les États-Unis et pour l'Occident. Il est évident que le conflit, en passant d'une guerre territoriale limitée à un affrontement économique global entre l'ensemble de l'Occident d'une part et la Russie adossée à la Chine d'autre part, est devenu une guerre mondiale. L'Occident a changé plusieurs fois de position concernant l'ampleur de l'aide militaire apportée au régime du président ukrainien, se laissant entraîner encore plus loin dans le conflit. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'enverraient pas de missiles avant de céder sous la pression de Zelensky. Après avoir décidé de ne pas envoyer de chars d'assaut, les pays de l'OTAN ont commencé à céder à contre-cœur les uns après les autres. À chaque retournement de situation, l'OTAN s'engage un peu plus. Et à chaque implication supplémentaire, il devient de plus en plus difficile d'abandonner le combat et de sauver la face. La décision de l'OTAN d'envoyer des chars modernes en Ukraine a suscité des réactions furieuses des propagandistes du Kremlin. Moscou a directement réagi en dénonçant une décision extrêmement dangereuse. La propagande russe est allée bien plus loin en appelant purement et simplement à bombarder Berlin en représailles. Des chars allemands avec des croix sur leur blindage vont à nouveau traverser l'Ukraine en attaquant des soldats russes. Nous devons désormais considérer l'Allemagne comme partie prenante du conflit. À peine la décision concernant les chars a-t-elle été prise que Zelensky commença à faire pression sur l'OTAN pour qu'elle envoie des avions de combat. Devant la Chambre des communes à Londres, le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a été interrogé sur les informations faisant état de la possibilité de créer une coalition d'avions de combat avec l'Ukraine. Sa réponse fut très précise. Depuis que nous avons entrepris de livrer des chars à l'Ukraine, les gens se demandent à juste titre « Quelle sera la prochaine étape ?» a répondu M. Wallace. Ce que nous savons à propos de toutes ces demandes, c'est que la réponse initiale est non, mais que la réponse finale sera oui. Très rapidement, il est apparu que Poutine se lança à corps perdu dans ce conflit, au point que la défaite soit devenue inimaginable s'il souhaite se maintenir au pouvoir. Désormais, il est évident que l'OTAN se trouve dans la même situation. Ni l'OTAN ni l'Occident ne peuvent se permettre de perdre. Cette guerre territoriale limitée s'est progressivement transformée en un conflit mondial. Lorsque les grandes puissances mondiales s'engagent dans un conflit qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre, la fin sera probablement catastrophique pour la planète. Nous voyons se reproduire la même situation que dans les années 1930. Dans « Le soleil se lève aussi », d'Ernest Hemingway, Bill Gorton, demande à Mike Campbell comment il a pu faire faillite. Quelle fut la réponse de Mike? Graduellement d'abord, et puis brusquement. les guerres mondiales ne surgissent pas à l'improviste. La réponse du personnage de fiction Mike Campbell s'applique à beaucoup de choses dans la vie, y compris aux grands conflits. De petites décisions graduelles, prises par les nations, s'accumulent jusqu'à qu'une goutte d'eau fasse déborder le vase. Le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand fut l'aboutissement des tensions sous-jacentes, devenant l'étincelle qui déclencha la Première Guerre mondiale. L'incident du pont Marco Polo en Chine fut le point de départ d'une décennie de guerre en Asie qui s'étendit bien au-delà de ce continent. Ce que la Bible annonce. Beaucoup seraient surpris d'apprendre que les grandes lignes des événements actuels en Europe ont été prédites dans un livre connu sous le nom de la Bible. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine n'y est pas mentionnée spécifiquement, mais les effets de l'invasion le sont. Au monde de demain, nous mentionnons depuis des décennies que l'Allemagne reviendra une grande puissance militaire et prendra la tête de 10 nations pour partir à nouveau en guerre dans le monde. Cette prédiction se trouve dans les pages de la Bible. Comme je l'ai expliqué dans notre revue de juillet-août 2022, plus d'un président américain a appelé l'Allemagne et d'autres États européens à respecter leur obligation de dépenser 2% de leur PIB pour la défense. Récemment, Donald Trump menaça même de retirer son pays de l'alliance, l'OTAN, si ce point n'était pas respecté. Vladimir Poutine a changé tout cela en un jour. L'Allemagne et d'autres pays européens tentent fébrilement de rattraper la menace qui pèse sur eux. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que son pays dépasserait le seuil des 2% de dépenses militaires annuelles et qu'il mettrait de côté 100 milliards d'euros supplémentaires pour reconstruire son armée. Cette transformation n'aura pas lieu du jour au lendemain, mais la véritable émergence de la puissance de la bête n'est peut-être plus très loin. Voyez ce titre frappant paru dans la presse. Russie, Medvedev déclare que le 4e Reich sera composé de l'Allemagne et de la Pologne. L'article continue. Medvedev a publié sur Twitter une liste de 10 prédictions pour 2023. Le 4e Reich sera créé, comprenant le territoire de l'Allemagne et de ses satellites, c'est-à-dire la Pologne, des États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie, la République de Kiev et d'autres parias, a déclaré lundi soir Dmitri Medvedev, ancien président de la Russie et fervent partisan de la guerre en Ukraine. Personne ne connaît avec certitude le moment exact de l'avènement de ce 4e Reich. Mais il est significatif qu'un politicien de la stature de Medvedev fasse cette prédiction. Il est légitime de se demander ce qu'il sait des négociations qui ont lieu en coulisses. La réponse se trouve peut-être dans un article du journal Asia Times. Dans son rôle autoproclamé de gendarme du monde, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pensait probablement qu'il était de sa prérogative de vérifier ce qui se passe entre l'Allemagne, la Chine et la Russie et de savoir ce dont il n'avait pas connaissance. Cependant, l'appel de M. Blinken au ministre chinois des Affaires étrangères ce vendredi 23 décembre 2022 fut un fiasco. Son intention était assurément de recueillir des renseignements sur les 2 échanges de haut niveau que le président chinois a eu successivement la semaine dernière, d'une part avec le président allemand et d'autre part avec le président du Parti Russie Uni et ancien président russe Dmitri Medvedev. Blinken a probablement deviné que l'appel téléphonique de Steinmeier à Xi, mardi, et la visite surprise de Medvedev à Pékin, ainsi que sa rencontre avec Xi mercredi, n'était peut-être pas une coïncidence. Que s'est-il dit lors de ces rencontres? Quelles informations confidentielles Medvedev détient-il? Sa prédiction de l'avènement d'un 4e Reich cette année n'est-elle qu'une spéculation? Ou en sait-il bien davantage que nous? L'avenir nous dira si son estimation est correcte. Mais la Bible confirme que la prédiction est exacte, et la situation de l'ordre mondial confirme que nous vivons à l'époque où cette puissante bête s'élèvera en Europe. La chute des États-Unis et l'effondrement du dollar pourraient accélérer ce changement géopolitique. Medvedev fit aussi des prédictions à cet égard. Le système de gestion monétaire de Bretton Woods va s'effondrer, entraînant la chute du FMI et de la Banque mondiale. L'euro et le dollar cesseront de circuler en tant que monnaie de réserve mondiale. Les monnaies numériques de banques centrales seront activement utilisées à leur place. C'est une hypothèse que beaucoup ont formulée au cours des dernières années. Que le comprennent ou non, Bretton Woods et la façon dont celui-ci a établi le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale les conséquences seraient que la vie aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux se détériorerait brusquement du jour au lendemain. Il est difficile de prédire les événements futurs et encore plus de savoir quand ils auront lieu. Cependant, Dieu révèle l'avenir dans les pages de sa parole, la Sainte Bible. Il y a plus de 2500 ans, Dieu donna au prophète Daniel un aperçu de l'histoire mondiale et il identifia les principales puissances impériales qui allaient façonner le monde depuis cette époque jusqu'à nos jours. L'apôtre Jean consigna des détails supplémentaires à ce sujet dans le livre de l'Apocalypse. La prédiction de Dimitri Medvedev annonçant un quatrième Reich allemand qui inclura d'autres nations européennes correspond à la prophétie biblique. La question est de savoir quand cela se produira. Beaucoup de choses ont lieu en coulisses. Les États-Unis sont en faillite morale et financière. Ils se laissent distraire par une propagande anti-Dieu. Ils sont terriblement divisés et leur dette s'élève à plus de 31 000 milliards de dollars. Notre pays de souche israélite, dont le Royaume-Uni, le Canada ou la France, sont dans une situation similaire. Certains annoncent une deuxième guerre civile américaine qui brisera ce qu'il reste d'unité dans la nation. Si cela avait lieu, que feront les nations qui dépendent encore du parapluie américain? La prophétie biblique s'accomplira. Les nations de souche israélite, les États-Unis en tête, seront rabaissées car elles ont rejeté leur Créateur et se sont livrées à l'immoralité. La guerre en Ukraine est une menace sérieuse à la fois pour les puissances occidentales et orientales. Selon la prophétie biblique, un grand réalignement géopolitique de l'Europe est à prévoir dans un avenir proche. Les alliés actuels deviendront des ennemis. Des antécédents. Nous ne sommes pas la première génération à traverser une période difficile, mais la Bible encourage ceux qui placent leur confiance en Dieu et qui lui obéissent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Hébreux 11, verset 7. Le roi Salomon, rempli de sagesse, comprenait aussi que les choses finiront bien pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui le placent vraiment au premier plan dans leur vie. Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Ecclésiaste 8, versets 12 et 13. Lorsque Judas fut emmené en captivité, 4 garçons juifs furent emmenés avec des milliers d'autres vers un pays étranger et un avenir incertain. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego placèrent leur confiance en Dieu dans les circonstances les plus difficiles qui soient, et Dieu les aida à s'en sortir. Daniel 3, versets 6 et 26 à 28. À cette époque-là, le prophète Jérémie vivait à Jérusalem, mais Dieu le protégea lorsque la cité tomba. Dieu protégea également Baruch, le scribe de Jérémie. Quelques siècles plus tôt, le roi David affronta aussi le danger, mais il craignait Dieu plus que les hommes. Ainsi, Dieu veilla sur lui tous les jours de sa vie. « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Psaume 56, verset 12. Dans Ézéchiel 9, une vision inhabituelle représente la ville de Jérusalem dans une métaphore et un message adressé aux 10 tribus septentrionales d'Israël. Dans cette vision, 6 hommes sont chargés de parcourir la ville et de tuer ses habitants, mais un 7e, muni d'une écritoire à la ceinture, doit parcourir la ville et marquer le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises par leurs concitoyens. Les bourreaux reçurent l'ordre suivant. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Le fait qu'ils doivent commencer par le sanctuaire de Dieu laisse à penser que ce châtiment frappera d'abord les religieux hypocrites, ceux qui prétendent être croyants, mais ne vivent pas comme Dieu l'a ordonné. Comme l'a décrit Mike Campbell, le personnage fictif d'Hemingway, notre monde se dirige comme un somnambule vers Armageddon, graduellement d'abord, et puis brusquement. Mais la fin de la mauvaise gestion humaine sur la Terre n'est pas encore arrivée. De nombreuses prophéties doivent encore s'accomplir. Cependant, comme nous l'avons vu au cours des 3 années écoulées, notre monde peut changer du jour au lendemain. De plus en plus de changements progressifs deviennent soudains. N'est-ce pas ce que le prophète Ésaïe écrivit à l'intention de notre monde rebelle ? puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Ésaïe 30, versets 12 et 13. Attendez-vous à ce que de grands événements surprennent et secouent le monde dans les jours, les semaines et les mois à venir.